Déjà, non, je n'aurais pas vu les embouteillages absolument fréquents avec les énormes travaux qu'il y a sur les autoroutes allemandes. Je profite de ce soir également, je dirige le centre culturel franco-allemand de Carrefour depuis 15 ans et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de coopérer avec la Hochschule für Gestaltung, donc l'école de design que dirige Peter Sloterdijk, et également le ZKM, le grand musée que tout le monde connaît ici à Strasbourg, et je salue son directeur, Peter Bayle, qui nous a accompagnés. Merci, Peter. Nous avions d'ailleurs organisé une belle petite soirée il y a quelques années avec Finkielkraut et Welbeck pour un débat sur le corps humain. Ce soir, c'est Peter Sloterdijk qui est venu présenter le livre Tu dois changer ta vie. Tout le monde le connaît ici, c'est pour ça que je ne dirai que brièvement qu'il est né à Karlsruhe, qu'il a fait son doctorat de philosophie à Hambourg sur la philosophie et l'histoire et l'autobiographie, qu'il a ensuite publié un livre, La critique de la raison civique, qui a été traduit dans 32 langues et qui a été le livre de philosophie rendu dans plus grande langue allemande. Il a ensuite publié beaucoup d'autres ouvrages, Sèvres entre autres, et à Strasbourg, il est plus connu pour être venu ici occuper la chaire Lévinas. Et aujourd'hui, il dirige, comme je l'ai dit précédemment, à Karlsruhe, la Hochschule für Gestaltung, et je lui laisse tout de suite la parole.
Merci Robert. Tu me donnes la parole très brusquement, comme toute la situation arrive pour moi d'une façon un peu brusque, parce que pour dire la vérité, au début j'avais assumé qu'il y aurait un présentateur qui s'occuperait de la tâche de présenter soigneusement mon livre, et je me rêvais assis à côté de ce personnage, entouré par une aura de silence extérieur, poussant les sourcils de temps à autre pour signaler une espèce de vie intérieure et de signer quelques copies de mon livre et de saluer le public de Strasbourg amicalement et de me retirer. Maintenant, vous voyez, on m'a piégé. Et ça me donne l'occasion de vous rappeler le titre de l'ouvrage philosophique des années 50, si je ne me trompe pas, formulé par un auteur extraordinaire de l'époque, Léon Chestov, L'homme pris au piège. L'être humain, selon lui, c'est toujours quelqu'un qui est piégé d'une façon ou d'une autre, parce que exister, c'est se réveiller dans un piège. À Strasbourg comme ailleurs, dans les librairies, comme dans d'autres endroits. Donc, permettez-moi de faire ce que un embryon éveillé dans un piège peut faire. On ne peut que réagir intelligemment en faisant un effort de meubler le piège. Amitié ou piège. Mondialisé le piège. Mais pendant cet essai de mondialisation, on se rend compte qu'il y a des bruits dans la caverne que nous habitons. Et un des formules, une loi obsessionnelle peut être déchiffrée de la façon que le titre de mon livre a essayé de le rendre. Tu dois changer ta vie. Être humain, piégé, dans cette caverne meublée, un ayant meublé, et en même temps exposé à une grande voix qui exige que tu changes ta vie. Pourquoi? Parce que la tendance à l'intérieur de la caverne que nous habitons, la tendance principale, c'est de ne pas vraiment se rendre compte de l'endroit où l'on se trouve. L'errance profonde des êtres humains dérive du fait que nous préférons normalement ne pas prendre vraiment note de notre situation. À partir de ce moment-là, la loi arrive et se fait entendre. Qui me dit tu dois changer ta vie. Pour tous ceux qui sont capables de recevoir ce message, ils se posent immédiatement la question qui parle à partir de nous et surtout avec quelle arrogance. Autorité, une arrogance légitime, et poser la question de l'autorité, ça veut dire vouloir faire connaissance avec la source d'autorité qui légitime cette arrogance, cette présomption qui se permet de nous adresser à cet impératif absolu, cet impératif obscène, invasif, qui ne respecte pas, même pas, les bonnes manières de la communication civile ou bourgeoise. Il y a une voix qui s'arrange le privilège de me tutoyer sans se faire le souci de se présenter ni de faire ma connaissance. Alors, c'est une interview que je viens de donner à une journaliste du Point qui sortira dans quelques jours. C'est quel jour le jour de publication du Point en France? Samedi? Jeudi? Donc ça sera pour après-demain. J'ai déjà fait un effort pour expliquer le vertige que nous donne la phrase tu vas changer ta vie, parce que, au fond, en tant qu'individu moderne, nous avons appris à ne jamais permettre à personne à nous parler comme ça. Alors, les Français ont permis à Stéphane Hessel de les interpeller en les vouvoyant, en disant « indignez-vous ». Lorsque je dis tu vas changer ta vie, c'est pratiquement la même chose. Avec la petite exception du singulier, de la deuxième personne, un peu plus intime, pour ainsi dire, la crise française interpelle les citoyens collectivement. La crise mondiale me tutoie. Mais néanmoins, on n'a pas encore appris où nous pouvons trouver la source de l'autorité de cette loi. Et donc, la question de l'autorité, de la légitimité de cet appel, n'est pas éclairée. Nous pouvons continuer à croire que cet appel ne s'adresse pas vraiment à nous, probablement notre voisin. Il est plus âgé, il a plus de temps, il a les cheveux gris. Vous avez la disposition à recevoir le message de l'impératif absolu, comme je l'appelle. Tu vas changer ta vie. Je ne veux pas rentrer dans un véritable dialogue avec vous, mais dans une situation de salle de classe, on pourrait aisément s'imaginer un professeur de français se déambulant parmi ses élèves et collectionnant des réponses hypothétiques à la question où se trouve la source de l'autorité de cette foi. Ou plus précisément, dans quelles conditions accepteriez-vous que quelqu'un, n'importe quelle instance de parole, s'adresse à vous en utilisant ce langage? Et ici, je reviens à mon hypothèse de départ. Un homme moderne, normalement, ne peut jamais admettre une telle position. Quiconque que ce soit qui possède l'arrogance d'occuper cette place, il serait nécessairement votre adversaire. Ou, comme on dit en français, un maître. Un maître que cette coïncidence sémantique d'un seigneur et d'un enseignant. Ce qui ressemble parfaitement la situation de l'humanité à l'âge classique. Être gouverné peut toujours aussi signifier avoir trouvé son enseignant. Maintenant, nous nous sortons grâce à l'Internet et des nouveaux médias. Nous sortons de l'ère des enseignants maîtres, des enseignants gouvernants. L'âge de la maîtrise disparaît, mais l'impératif absolu n'a pas disparu. Donc, vous me tirez l'affaire. Je pouvais vous trahir, comment moi j'ai réglé l'affaire de l'autorité de cette phrase. Je me cache derrière des épaules assez larges, ou minces, comme vous voulez, du poète Rainer Maria Rilke, qui, dans un vieux poème, écrit probablement à la fin de son séjour à Paris, vers 1966-65, avait utilisé cette phrase. Vous savez peut-être que Eugène Rilke a été le secrétaire du sculpteur Maurice Rodin dans son atelier près de Paris, à Besançon, pendant une demi-année à peu près, et qui avait médité les principes de l'art du sculpteur qui était Auguste Rodin dans son propre ouvrage. Il a étudié et appris le concept du torse autonome chez Rodin, c'est-à-dire une œuvre d'art non achevée comme œuvre d'art absolue. Ça, c'est une expression esthétique de premier ordre, parce que Rodin a présent cassé le dogmatisme de la forme achevée. Il a misé sur une nouvelle esthétique de la présence pure d'un corps qui n'obéit plus à l'autorité du l'idéal du groupe, mais qui s'oriente plutôt vers un idéal d'intensité. Ce n'est pas un simple fragmentarisme, c'est une métaphysique de l'intensité incarnée dans des surfaces où chaque endroit a été travaillé, retravaillé, retravaillé, jusqu'au moment où chaque endroit possède une sorte de magnétisme esthétique dont émane une force immédiate de la perception. Je crois que dans ce cas, on raconte que Alain Berlitz aurait visité les collections du musée du Louvre et aurait rencontré dans la collection antique un torse d'une statue d'Apollon de l'âge classique, transformé dans le poème dans un corps masculin d'un dieu archaïque. La tendance archaïsante du poème de Rainer Erdrich exprime sa lecture de Nietzsche. En étudiant ce corps, sans tête, sans bras, sans jambes, sans sexe, il éprouve le sentiment qu'il est en face d'une manifestation de masculinité dont la déradiation est toujours plus forte que sa propre présence physique. Il se sent, disons, humilié et provoqué par une présence divine incarnée dans un morceau de chair. Il éprouve que le regard est une antenne, et lui-même est une antenne qui reçoit. Et en recevant le message de l'art, il entend la phrase « Tu dois changer ta vie ». Et pourquoi? Parce que, aux surfaces de l'art, il n'y a aucun endroit, qu'à échelle, du déchiffrer. Il n'y a aucun endroit qui ne t'observe pas. C'est-à-dire, le magnétisme de la rencontre avec le regard implique le moment où la relation entre sujet et objet s'inverse. Le spectateur se comprend comme un être regardé, ce qui semble absurde au niveau de la réceptivité quotidienne, mais dans le domaine, pour ainsi dire, semi-mythologique, semi-religieux, de la contemplation esthétique, il est tout à fait probable que tout d'un coup, une subjectivité cachée de l'œuvre d'art se manifeste et expose à l'expérience d'une contre-observation. Je suis observé tout en observant. Et cette contre-observation est le lieu où la phrase de l'impératif absolu peut surgir. Et nous nous trouvons au cœur de ce surgissement. Pourquoi j'ai parlé du fait que je voulais me tirer d'affaire, parce que en tant que auteur de ce livre, j'étais devant la même incapacité à répondre à la question qui parmi nous aurait le droit de prononcer cette phrase. Et la seule expérience à laquelle nous cédons le privilège de nous parler ainsi, c'est l'œuvre-là, l'expérience esthétique. Parce que, selon le fameux bon mot, de Paul Celan, l'œuvre d'art ne s'impose pas, elle s'expose. L'œuvre d'art ne s'impose pas, elle s'expose. Et dans la mesure où l'œuvre d'art s'expose, nous nous convaincons du fait que nous ne sommes pas dans un rapport de maître-serviteur ou de maître-esclave. devant une voilà, mais devant une sorte d'échelle, une sorte d'échelle qui possède différents degrés d'intensité vitale ou autorité formelle. Et ce genre de ranking informel qui n'a rien à voir avec une compétition sociale, ni avec une hiérarchie, ni avec un rapport de classe ou même de domination, c'est exclusivement avec la structure de la verticalité spontanée de l'être. Dans une situation pareille, les portes de la réceptivité s'ouvrent. Et nous entendons là où normalement on n'entend pas. Parce qu'on est dans un terrain où toutes les problématiques des hiérarchies sociales ont disparu devant